Antenne, ding ding dong.
Bonjour Pierrick.
Bonjour Alice.
Alors bienvenue à l'antenne ding ding dong. On est vraiment très très heureux de pouvoir échanger avec toi à partir de ton expérience. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire avec la maladie d'Huntington?
Oui, bien sûr. Ça a commencé en fait, donc je me rendais pour fêter l'anniversaire surprise à mon père en Bretagne. Et donc à la fin de l'anniversaire, ma mère me dit va au salon, papa a quelque chose à te dire. Donc je m'assois. À ce moment-là, il m'annonce qu'il est atteint d'une maladie neurologique qui s'appelle la maladie de Huntington, que ma grand-mère en est décédée il y a 30 ans et que mon oncle Lucien en est descendu et en est décédé également il y a 15 ans. Mmh. Alors pour moi, tout d'un coup, c'est une énorme déflagration et en même temps une connexion. C'est-à-dire que je comprends immédiatement que en fait ce dont je cherche la cause depuis plusieurs années, c'est-à-dire c'est cette maladie-là. Donc il m'annonce ça et tout de suite je suis tremblant sur le fauteuil, j'ai déjà des tremblements et tout de suite et je comprends dans mon cerveau immédiatement donc évidemment que mon père a une maladie mortelle, donc je comprends que moi automatiquement dans une seconde j'ai aussi donc de facto une maladie mortelle. Je comprends aussi que j'ai souffert un calvaire pendant 5 ans pour rien. Et je comprends aussi que je suis le dernier de la famille à être informé. En effet, donc mon père a informé tout le monde dans la famille. Il a informé ma soeur. Mon neveu est au courant, ma nièce, mes cousins, mes oncles, mes tantes. Mais moi, je suis la dernière personne de la famille à être informée. Évidemment, c'est une seconde. Je dois intégrer tous ces éléments-là. C'est en même temps une énorme déflagration, une énorme trahison et aussi quelque part une condamnation à mort. Parce que je comprends encore une fois immédiatement dans ma chair et dans mon esprit et dans mon cœur, tout ça est très confus. Mais très violent, mais toutes les informations sont présentes en même temps. Il n'y a pas de hiérarchie, elles sont toutes présentes en même temps, mais je comprends tout en même temps. Qu'on m'a trahi, qu'on m'a fait du mal pendant 5 ans pour rien, et que moi-même je vais mourir. Donc voilà, tout ça, je l'intègre en une seconde, je dois intégrer toutes ces informations-là.
Et quand tu dis.
Je dis tout ça parce qu'en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que, effectivement, depuis 5 ans, donc, je souffre ce qu'on appelle un syndrome dépressif aigu. Mmh. Alors, on sait dire qu'effectivement, au départ, c'est ça qui a. Donc, en 2007, j'ai commencé à être soigné pour une dépression très aiguë. Je ne dormais plus du tout la nuit. Bref, j'ai été voir une psychiatre. Donc, elle m'a donné donc, des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et là, je me suis dit, il faut faire un travail de psychothérapie. Mmh. Et donc, j'avais 40 ans, donc je me disais, c'est la quarantaine. Puis en fait, en même temps, j'expliquais aussi à la psychiatre que notamment j'avais la peur de devenir clochard et de finir dans un caniveau comme ça. La peur de la déchéance physique et mentale. Mmh. Et à chaque fois que j'abordais ce thème avec la psychiatre, elle faisait très bien son travail. Elle me disait, mais est-ce que dans M. Gagnin, dans votre famille, est-ce qu'il y a des gens qui ont souffert de déchéance physique ou mentale? Alors je dis, non, pas du tout, puisque justement, je ne savais pas. Et donc, ça pour dire que en fait, il y a c'était le fameux chaînon manquant. Donc j'aurais su effectivement plus tôt que il y avait eu la présence, il y avait eu cette maladie dans ma famille, ça m'aurait évité toute cette errance médicale qui a failli me tuer, puisque j'ai quand même fait deux tentatives de suicide. Mmh. Donc tout ça pour en arriver là. Mmh. Donc tout ça m'aurait évité ce parcours. Donc effectivement, donc ça aurait été ce chaînon manquant donc entre le psychiatre et le neurologue, parce qu'effectivement si j'avais dit oui dans ma famille il y a eu des gens qui sont morts de déchéance physico mentale, tout de suite elle aurait dit ah bah allez voir un neurologue. Oui. Mmh. Donc ça m'aurait évité tout ce parcours, parce qu'effectivement moi je pensais que j'étais déjà un peu fou, je commençais à avoir des troubles de l'humeur, des troubles cognitifs, des troubles aussi de l'équilibre. Donc quand je faisais de la randonnée, mon copain Christophe voulait que je marche à droite parce que j'avais des troubles de l'équilibre. Donc, j'avais déjà, en fait, tout ça pour dire, j'avais déjà les premiers symptômes de la maladie, voilà.
Et en ignorant complètement qu'il y avait ça dans ta famille, toi, tu commençais à éprouver des choses dans ta chair, comme tu dis.
Oui, c'est tout à fait ça. Voilà.
Et à part...
Donc, si j'avais su, effectivement, ça m'aurait évité tout ça. Ça m'aurait évité cette période de recherche, quoi, parce que simplement, moi et la psychiatre, il y a eu une errance médicale entre les psychiatres, les généralistes, mon rythme, d'autres choses. Mais on savait pas tout ce que j'avais. Bon. Donc, je me disais, je pensais que c'était moi aussi. Mm-hmm. Moi, je pensais que j'étais un peu fou au début. Mm-hmm. Je me disais, c'est toi, ça vient de toi. Vous voyez, c'est. Donc, voilà.
Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, ça t'a pris à peu près combien de temps pour digérer ce moment où tu reçois tout en même temps?
Alors, en fait, ça c'était donc tout de suite. Je suis resté donc 2 jours en Bretagne. En plus, chez mes parents, j'étais tout seul. En plus, parce que mon papa n'était pas avec moi. Et je pensais à ça 24 pendant 2 jours, j'étais chez eux, mais je ne dormais absolument pas la nuit. Je prenais plein de somnifères, parce que j'avais toujours des somnifères avec moi, parce que comme j'étais déjà en dépression. Mais c'était très, très, très spécial, j'ai dû rester 2 jours avec eux, alors qu'en fait, j'avais une seule chose, c'est de partir de cette maison et de partir pour toujours. Et c'est ça. Et le pire, c'est qu'en plus, je me suis abstenu de faire la moindre critique à mes parents. C'est-à-dire que je me disais, comme je voyais mon père malade, je me suis vraiment abstenu de toute critique. Donc, c'est tout ça qui est particulièrement difficile, c'est que j'ai dû tout prendre et je lui ai rien dit. Enfin, bon, de toute façon, ça se voyait, oui, j'étais en état de choc, mais comme je voyais que mon père était malade, je voulais pas ajouter. Mais,
Et parce que
je suis simplement autorisé à lui poser la question. Je lui ai dit, ton neurologue, en plus, t'avais quand même dû prévenir tes enfants. Et tu penses pas que ça. Je lui ai dit, quand même, la seule question que je me suis autorisé à lui poser, quand même, après 48 heures chez eux sans dormir, c'est. Je lui ai dit, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Puisque. Je lui ai dit, est-ce que tu penses. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aurais attendu? Parce que j'étais maigre, vraiment, j'étais cadavérique, hein. Mm-hmm. Mes collègues me disaient au travail, t'es cadavérique. Mmh. Et alors, donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que t'aurais attendu de plus que je fasse 39 kilos ou, voilà. Donc, il me dit, mais qu'est-ce que ça t'aurait changé si je te l'avais dit plus tôt? Oui, voilà. Donc, ça en disait long sur l'ampleur de du gap entre lui et moi.
Ouais.
Qu'est-ce que ça aurait changé si je te l'avais dit plus tôt? Voilà.
Et lui, tu l'avais vu malade depuis un certain temps à cette époque-là? Tu avais remarqué des choses? Et au niveau de ton père, hein, tu avais remarqué des choses au niveau de sa maladie à lui, qui avait une maladie? Qu'est-ce qu'il se disait dans la famille par rapport à lui?
Dans la famille, personne ne le disait. Parce qu'en fait, moi, personne ne le savait. En fait, parce que c'était très récent qu'il était malade, en fait. Donc,
d'accord.
n'est pas quelque chose de patent. Donc, quand il a annoncé, par exemple, dans notre famille, bon, c'était une forme assez tardive, donc ça, c'était pas quelque chose de flagrant, ça se voyait pas, c'était pas flagrant.
Ouais, je comprends. D'accord.
Donc, bon, il avait des gestes un petit peu incontrôlés, mais c'était pas vraiment, c'était pas flagrant.
C'était pas une question pour toi, en tout cas.
Non, c'était pas une question. Non, c'est ça, c'était pas une question. Non, je me suis jamais posé la question. Ça m'avait effectivement pas du tout traversé l'esprit. Donc, non, il y avait pas de. Ouais, donc c'est vrai que c'était. Non, j'en avais jamais entendu parler de ça. C'était pas la vie avant.
Mais toi, par contre, tu ressentais des choses en toi.
Ah oui, je ressentais. Ouais. Ah oui, je ressentais déjà des choses. Déjà des choses, effectivement. Donc, le syndrome dépressif aigu, des troubles de l'équilibre, et aussi, des troubles aussi émotionnels. C'est-à-dire, je me sentais bien que j'avais fait preuve de moins de. J'avais moins d'inhibition aussi. Donc, je me sentais dans mes relations, des fois, je pouvais dire un peu plus facilement ce que je pensais qu'avant.
Tu disais
j'avais moins de retenue, on va dire. Voilà.
Tu avais moins de retenue et tu disais les choses telles que tu les.
Ils sont qu'avant.
Oui. Ouais. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a clashé avec ta famille, non?
Oui, ah oui, tout à fait. Oui, ça a clashé avec ma famille. Parce qu'en fait, eux, ils disent que le neurologue, n'aurait pas dit. À mon père, alors c'est tout à fait faux puisque ma mère m'a dit que le neurologue disait à chaque fois qu'il voyait mon père de prévenir ses enfants, mais bon, lui il a attendu vraiment le dernier, il a prévenu ma soeur, mais moi j'ai vraiment prévenu le dernier. Et donc oui, ça a caché, bon, il y a eu tellement de mensonges que bon, pour résumer, oui, j'ai préféré mettre un terme aux relations avec ma famille, puisque bon, j'ai aussi identifié comme des personnes extrêmement toxiques. Donc, sur les conseils du psychiatre qui me soigne, effectivement, j'ai été obligé de prendre des distances avec ces personnes extrêmement toxiques. Donc, c'est vraiment pas simple, parce que c'est vrai que bon, c'était pas simple du tout, mais. Malheureusement, j'étais obligé de pour me protéger aussi d'une certaine manière.
Oui, je comprends bien. Et après, donc après ces fameux 48 heures où t'étais là-bas, tu as pu remonter, t'as pu un peu rassembler les morceaux là de ce puzzle qui était dans tous les sens, ou comment ça s'est passé?
Petit à petit, oui. Alors tout de suite en rentrant première chose en rentrant de Bretagne, je téléphone tout de suite à la Salpêtrière, donc. Là, c'était en février, donc j'ai un premier rendez-vous au bout de 4 mois. Et là, pendant 4 mois, je pensais à ça, je travaillais, et je pensais à ça, c'était pas 14 sur 24, 7 jours sur 7, c'était vraiment, je pensais qu'à ça, qu'à ça. Je travaillais, mais j'avais du mal à travailler, honnêtement, parce que je pensais qu'à ça, parce que du coup, j'avais tellement hâte d'avoir mon rendez-vous à la Salpêtrière, mais
pour faire le test,
non, comment
pour faire le test, c'est ça que tu voulais faire?
Oui, pour faire le test, oui, tout de suite.
C'est venu tout de suite. Ouais.
Et donc là, en juin, j'ai mon premier rendez-vous, donc je fais le test, et ensuite, alors entre temps, moi je m'étais cassé le tibia, ça pas de rapport, mais je m'étais cassé le tibia parce que justement. Je faisais du vélo et j'ai fait une chute à cause de mes problèmes d'équilibre, donc j'ai cassé le tibia. Enfin bref. Donc ça c'est en fait. Alors après c'est donc après février, donc en juin, donc j'ai mon premier rendez-vous à la Salpêtrière. Donc effectivement j'ai fait le test et là on me dit que vous aurez le résultat en mois de septembre.
Oh là là, ça fait.
Et là pendant tout l'été effectivement j'ai pensé à ça tout le temps. Mais bon, j'avais demandé là, au mois de juin si en vertu de l'examen clinique, est-ce qu'ils pensaient que j'avais déjà, j'aurais expliqué que moi je pensais être déjà atteint de la maladie et qu'elle était déjà déclarée en vertu de l'examen clinique, est-ce qu'ils pensaient que voilà. Alors bien sûr, ils ont été extrêmement précautionneux. Ils ont dit, vous avez des, comment dire, des manifestations, mais ils n'ont pas dit, vous avez la maladie, la survie. Mmh. Mais ils ont dit, vous avez, oui, certaines choses. Voilà. Mmh. C'était déjà un premier indicateur.
Bien sûr.
Mais bon, dans le fond, moi, de toute façon, je le ferai.
Ouais, ouais.
Je n'avais pas besoin de faire le test, encore une fois. Mmh. Donc, alors, le 5 septembre à 19h, on voit toute ma vie, donc on m'a annoncé que j'étais porteur du gène. Donc, évidemment, là, ce n'était pas une bonne nouvelle. Et c'est sûr que, bon, c'est même carrément pas une bonne nouvelle du tout. C'est sûr que moi, d'emblée, c'était une très mauvaise nouvelle. Mmh. Alors, pour autant, vraiment, mais pour moi, donc, autant c'est bien que c'était vraiment une très mauvaise nouvelle, mais pour moi, encore une fois, c'était un soulagement. Mmh. Et vraiment, j'étais dans un état de telle fatigue, mmh, émotionnelle, psychique, que au moins, on me disait, vous êtes porteur du gène, voilà. Et non seulement vous êtes porteur de gène, mais la maladie, donc là, au mois de septembre, ils m'ont tout de suite dit que justement j'étais porteur de gène, mais que la maladie est déjà déclarée. Mm-hmm. Mais au moins, j'avais une réponse. Au moins, quelqu'un m'écoutait. Ne rigolait pas quand je lui parlais, parce que bon, jusque-là, c'était un peu ce que j'avais eu dans ma famille, vous voyez, bon, voilà. Mm-hmm. Donc, le simple fait qu'en fait, qu'on m'écoute, mais c'était une basique, mais pour moi, c'était déjà beaucoup. Qu'on me parle, qu'on me dise, vous êtes malade. Et moi, en fait, ça m'a aidé. D'être, quand on m'a dit, vous êtes malade, au contraire, ça m'a fait du bien parce que c'était la réponse que j'attendais, oui, c'était ça aussi. Je suis malade, oui, c'est ce que j'ai vécu pendant 5 ans, ça se comprend, je suis malade. Donc, c'est pas moi, je ne suis pas fou, oui. J'ai failli me suicider, parce que je pensais que j'étais vraiment fou. Oui. Donc, tout ça, c'est pas moi, c'est pas moi qui suis fautif ou aussi quelque part, c'est une maladie. Oui. Donc, on a mis des mots et c'est une maladie. Et moi, ça m'a aidé quand on m'a dit ça. Ça m'a soulagé. Je sais, pourtant, c'est pas une nouvelle. Mais au moins, ce qui voulait dire maladie, derrière, ça voulait dire prise en charge. Et pour moi, déjà, à trop personnel, hein, la prise en charge, c'était déjà la parole.
Ouais.
Même le simple fait qu'ils me disent ça, ouais, pour moi, ouais, c'était déjà être pris en charge. Mm-hmm. Voilà, ça commence. Bien sûr, j'attendais autre chose. Et j'ai eu autre chose, mm-hmm, on va en parler. Mais déjà, ça, c'était pour moi le début d'un processus d'être pris en charge. Ça. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on m'a dit que j'étais malade et moi, ça m'a fait du bien. Au contraire, qu'on me dise que justement j'étais malade parce que c'était une reconnaissance de ce que je vivais tous les jours. J'avais besoin d'être reconnu dans mon statut de malade. Mmh. Et donc très vite, il en faut plus parce que moi tout de suite, j'ai fait part de mon souhait d'entreprendre très rapidement des essais cliniques. Donc ils m'ont tout de suite proposé ce qu'ils avaient.
Au niveau de l'essai clinique. Ouais.
Donc tout de suite, je me suis rentré dans cette très vite, quasiment immédiatement, enfin pas immédiatement parce qu'ils m'ont dit quand même, on va vous laisser quand même 3-4 mois pour rédiger parce que bon, avant d'intégrer les essais cliniques, ils m'ont dit, c'était en septembre, ils m'ont dit bon, là c'est tout frais, il faut que vous digériez, on va vous laisser 4-5 mois et voilà. Mais donc après, ensuite, j'ai très vite intégré un essai clinique et fait partie d'une. Voilà. Et du coup, il y a une alliance thérapeutique qui s'est construite assez vite entre le neurologue la société pour l'essai clinique et moi. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est très important pour moi de participer aux essais cliniques, déjà d'un point de vue personnel et aussi d'un point de vue de la recherche. Mm-hmm. Et je voulais être acteur de mon processus thérapeutique. Voilà.
Mmh, mmh. Tu l'as continué. Enfin, tu continues d'ailleurs de faire des essais
J'en ai fait 4 d'ailleurs. Hein. Donc oui. Et effectivement, le dernier que j'ai fait, c'était sur le rêve HD que j'ai fini il y a 3 mois.
Ouais. Mmh.
Oui. Effectivement, oui, j'ai suivi 4 essais cliniques, mais pour moi, effectivement, c'est très important ma seule, pas ma seule, mais quand même, pour moi, l'espoir que j'ai, c'est ça, d'être sélectionné. Moi, c'est aussi une chance de faire partie de ces cliniques, d'être sélectionné. Et pour moi, donc je m'accroche à ça. Mais c'est vraiment très, très important pour moi de faire partie de ces groupes de patients choisis. Je considère ça comme une chance aussi, de, parce que j'ai la chance d'être suivi donc voilà, à la salle pétrière, donc du coup, et à l'ICM, donc du coup, voilà, pour moi c'est une chance.
D'accord. Et du côté de oh là, ça résonne un peu maintenant. Et au niveau de l'organisation de ta vie, etc. À partir du moment où tu as su, est-ce que tu as pu mettre en place des choses pour t'aider au niveau de tes symptômes et tout?
Oui. Alors effectivement. Alors déjà, voilà, ce que je t'ai à dire, c'est que déjà à partir du moment où on a su que ce que j'avais, déjà ça allait beaucoup mieux, parce que voilà. Donc déjà, je savais contre quoi je me battre. Donc déjà, j'allais beaucoup mieux. Donc voilà. Bien sûr, c'était difficile, mais au moins, moi, j'allais beaucoup mieux. Donc ça. Ensuite, effectivement, on m'a proposé d'être suivi par un kiné. Un physique, j'en avais déjà un. Ensuite, on m'a proposé aussi de travailler à temps partiel, parce que je travaille à temps plein. Donc on m'a proposé de travailler à temps partiel. Et là, à ce moment-là, j'ai bénéficié d'un aménagement de mon travail, de mon poste, quoi. Donc, je travaille effectivement 3 jours par semaine. Donc, du coup, un jour sur deux, je me repose chez moi. Ainsi, je peux continuer à travailler, parce que c'est vraiment très important pour moi. Et de stimuler autant que je peux mes capacités cognitives et relationnelles.
Tu aimes ce travail?
Oui, exactement. Oui, j'aime beaucoup le travail. Effectivement, je travaille à Pôle emploi et j'aime bien effectivement accompagner les demandeurs d'emploi que j'ai la chance d'accompagner vers effectivement des projets, donc soit l'artisan d'emploi ou la construction d'un autre projet, ça peut être une création de société, enfin, ou de formation. Donc oui, j'aime beaucoup ce travail qui me donne beaucoup de satisfaction, parce qu'effectivement j'ai la chance d'aimer ce que je fais, et effectivement c'est très gratifiant, je trouve mon travail très gratifiant, et en plus j'ai des collègues adorables, une hiérarchie super, donc tout se passe très bien dans mon agence.
Voilà. Et tu leur as parlé de la maladie
Ah oui, tout de suite, dès quand je suis rentré de la Bretagne, donc de chez mes parents, moi qui suis quelqu'un de très discret, voire même secret, dans mon travail, j'ai parlé de ça et à ma hiérarchie, à mes collègues, et tout le monde me disait, mais allez, vas-y, pas, ils adorent, ils ont dit, faut pas que tu restes avec ce que tu vis là, ils ont été d'une très grande écoute, une écoute très précieuse, de très grande qualité.
C'est super.
Et ils m'ont aidé, beaucoup aidé, parce que ils ont été super. Ils ont été super. Et vraiment, ça m'a. Donc effectivement, je les ai tenus tous au courant. Ils m'ont aidé, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et après, lors du diagnostic, ça, ils ont été adorables. Et c'est très important. Et effectivement, j'ai la chance d'avoir des collègues adorables. Donc du coup. Ils sont super. Effectivement, je leur ai tout dit.
C'est assez rare, hein, d'ailleurs, que les personnes qui sont touchées par Huntington en parlent sur leur lieu de travail. Et chez toi, ça, non seulement tu leur en as parlé, mais tu leur en as parlé avant même de faire le test génétique, en fait. Et du coup, ils t'ont accompagné pendant tout le processus du test, pendant les mois d'attente.
Ah oui, ils ont été bien. D'un grand, grand secours, et je ne remercierai jamais. Ils m'ont accompagné, ils m'ont aidé, ils sont bienveillants, donc c'est adorable.
Et tu t'es pas senti mis de côté, genre de... Ouais, ça c'est important de le dire aussi.
Ah oui, je suis d'accord, ça, avec toi, c'est très important. Au contraire, non, c'était l'inverse, je dirais. Ils étaient comme ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont bienveillants, et ce qui est bien, c'est qu'ils ont intégré ça, et donc ils ont tenu compte, donc ils étaient contents. Mais non, ils m'ont pas du tout, au contraire même, je dirais. Non, c'était plutôt, Et non, ils m'ont pas du tout, non, ni coopté, ni quoi que ce soit. Et ils en ont jamais fait, ils en ont jamais, quand ils en faisaient référence, c'était toujours de manière extrêmement positive et gentille. Mm-hmm. Et au contraire, voilà, non, pas du tout, non.
Ben c'est un super exemple que peut-être si on rencontre d'autres personnes comme toi qui ont des difficultés au travail, on pourra toujours dire que c'est possible de faire autrement, quoi. Et donc, vive Pôle emploi sur ce coup-là.
Tout à fait. On veut dire, oui.
Et alors par la suite, donc, tu finalement au niveau de ta dépression et tes difficultés, etc. Du coup, il y a eu aussi des changements dans ton accompagnement, dans ton traitement, du fait qu'on ait su que c'était Huntington.
Oui, un petit peu au niveau des anxiolytiques peut-être. Oui, puis on a trouvé enfin le bon antidépresseur.
Ouais.
Bah d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le bon antidépresseur, moi, j'ai trouvé que c'est le Seroplex. C'est d'ailleurs ces gars. D'ailleurs, en discutant avec un collègue de Pôle emploi, qui au lieu aussi prenait des antidépresseurs, qui m'en a parlé. Mm-hmm. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui est bien. Et c'est grâce à un de mes collègues que j'ai trouvé le Seroplex. Mm-hmm. Donc, j'en ai parlé à mon psychiatre. Et du coup, jusque-là, j'étais suivi par un psychiatre qui m'avait presque l'autre dépresseur. Mm-hmm. Et du coup, je ne savais plus comment faire. Et donc, grâce à mon collègue, j'ai suggéré le Seroplex. Il m'a dit, bon, ok, on peut essayer. Ouais. Et grâce à ça, je prends le Seroplex. Ça me convient, voilà. Je peux dire que ça va, parce que on peut pas vraiment dire que ça va, en tout cas, ça va moins mal qu'avant.
Ouais, ça va moins. T'es plus dans des moments de crise comme avant, déjà à pas comprendre ce qui se passe. Et par rapport aux insomnies, ça continue de t'embêter, ça?
Oui, je continue. J'ai toujours des insomnies, ouais. Et puis aussi parce que moi, petit à petit, j'ai arrêté de prendre les anxiolytiques parce qu'à un moment, je prenais du Seresta, donc à base de diazépine, et petit à petit, j'ai voulu m'en sevrer, donc depuis un an, je ne prends plus de Seresta, donc je ne prends plus que mon antidépresseur, et alors je me sens mieux, parce que c'est vrai que le Seresta, ça a tendance un petit peu à me cacher, donc du coup, le matin, j'ai plus les idées plus claires. Donc j'ai plus cette camisole chimique. Mais du coup, effectivement, la nuit, des fois, je dors un peu, c'est un peu plus saccadé, quoi.
Et c'est comme ça, par exemple, si tu as plusieurs nuits d'affilée d'insomnie, après, tu as, ça compense pas quand même avec des bonnes nuits de sommeil de manière naturelle? Bof.
Non, jamais, ouais.
Donc là, il y a encore du progrès à faire, en fait. Je ne parle pas pour toi, mais pour la prise en charge autour des insomnies, c'est quelque chose qui résiste un petit peu.
Oui.
Ouais, c'est vrai qu'on l'entend pas mal aussi. Et qu'il y a encore des choses à... Et finalement, c'est quelque chose qui n'est pas forcément entendu, parce qu'en gros, il n'y a pas mort d'homme avec les insomnies, mais en fait, c'est quand même vachement emmerdant pour tout le reste de la journée, pour la qualité de vie, quoi.
Je suis d'accord avec toi parce qu'effectivement, ouais, en plus, ouais, quand on travaille, ou même quand on travaille pas, parce que c'est vrai que pour avoir simplement de l'énergie, effectivement, ouais, quand on dort pas la nuit, c'est chaud, quoi.
Alors,
par exemple, dans ce que tu dis, il n'y a pas mort d'homme, mais en même temps, c'est super chaud, quoi. Quand on récupère pas, pour le cerveau, c'est pas trop bon non plus, quoi.
Et puis ça marche aussi pour alimenter la dépression, même si parfois c'est la dépression qui peut entraîner des insomnies, mais tout est très relié, donc c'est très important de trouver des manières, que ce soit médicamenteuses ou pas. Tu parlais du Seresta et des benzodiazépines, c'est vrai qu'il y a un problème d'addiction avec ça aussi, donc ou d'accoutumance, donc on doit en prendre de plus en plus, donc c'est pas forcément la solution la plus intéressante, les benzodiazépines.
Ben non. Alors là, du coup, c'est vrai que je suis assez fier de m'en être sevré, parce que ça n'a pas été simple. Mais bon, c'est vrai que je suis assez fier d'arriver, d'être parvenu moi-même à un petit peu du bienfait.
Ah ouais, non, c'est super. Hein. Et au niveau de... Alors là, on arrive quasiment à la fin de notre entretien, ça passe toujours très vite. Mais je crois que tu as vu le film qu'on a réalisé à Ding Dang Dong, Absolute Beginners. Et je voulais savoir un petit peu par rapport à toi, où tu en es, si c'est quelque chose qui résonne avec ce que tu vis.
Ah oui, ça résonne avec ce que je vis, oui, tout à fait. Oh, oui. Effectivement, je me considère comme un beginner. Alors par contre, c'est vrai que... j'aime bien, dans mon cas personnel, la notion de maladie me gêne pas du tout parce que, encore une fois, mais ça c'est très personnel, pour moi, c'est vrai que ça a été aussi quelque chose de salvateur parce que le fait d'accéder justement au statut de malade, quelque part, ça répondait à une angoisse, à une autre angoisse qu'il y avait chez moi. Donc, voilà, ensuite, après, c'est vrai aussi que, un petit peu comme les autres personnes ont dit dans le film, c'est vrai que j'arrive maintenant aussi à me rendre compte qu'effectivement, c'est vrai qu'au début, quand on a parlé de Huntington, tout de suite, dès l'annonce, en fait, tout de suite, je pensais tout de suite carrément, je suis allé carrément, moi, quasiment réservé ma tombe au Seigneur, parce que j'en étais là au début. Bah oui,
parce que dans le film, les personnages disent qu'ils ont tous pensé à la mort assez vite après leur test. Ouais.
Et moi, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que dès qu'on m'a annoncé ça, bon, bah voilà, comme je suis une nature extrêmement organisée à anticiper tout, donc je m'étais dit, juste, j'allais pas choisir ma tombe, et voilà. Donc, j'étais vraiment dans ce truc-là. Petit à petit, ça a été différent. Parce qu'effectivement, en ayant la chance de danser, de rencontrer des personnes adorables, en ayant la chance de faire partie du Ding Dang Dong, du groupe de parole.
Ouais, des groupes d'entraide, ouais, tout à fait.
D'entraide, voilà, donc on se rend compte que c'est pas une synonyme d'une thème de mort immédiate, quoi. Mm-hmm. Donc du coup on peut faire de belles choses avec un Huntington. Mm-hmm. Et voilà, donc mais parce que c'est vrai que moi j'ai eu la chance qu'on me propose de participer à un atelier de danse. Mm-hmm. De participer au groupe de parole, et ça c'est une grande chance parce que ça m'a beaucoup aidé. Parce que, et après, effectivement, quand j'ai dansé, par exemple, faire partie de ce groupe de danse, je l'ai déjà dit X fois, mais je le dirai encore, c'était une grande chance pour moi, et parce que j'ai rencontré des gens super, vraiment adorables, d'une grande qualité que je n'aurais probablement jamais rencontré si j'avais pas été malade. Mmh. Et je me dis, si j'avais pas eu cette anomalie génétique, on va dire, et ça aurait été dommage. C'est vrai que du coup, j'apprécie plus les moments que je vis, et aussi maintenant. J'ai participé quand même à des choses que j'aurais pas connues si je n'avais pas eu, cette anomalie génétique, on va dire.
Oui, et tu fais des projets de vie maintenant, peut-être aussi libéré de cette incertitude que tu ressentais très fort et dont tu as été libéré au moment où on t'a dit que c'était une maladie, ce qu'on comprend, on peut tout à fait bien comprendre.
C'est tout à fait ça. Voilà. Et t'as raison, je suis libéré de ce côté-là. Et donc maintenant, je peux me concentrer sur effectivement mes projets, donc j'ai plus d'énergie, effectivement plus d'envie, parce que je sais ce que j'ai, et donc effectivement je peux me concentrer sur mes projets. Donc effectivement ma maison en bois à Tours, mais bon, qui a pris un peu de prix d'eau, mais bon, ça
une belle maison en bois, tout en bois à Tours, ça c'est génial. La maison de tes rêves, quoi, toi et ton copain, donc ça c'est quand
voilà.
même
ouais Et puis il y a aussi, j'ai commencé aussi à des cours de théâtre et ça me plaît beaucoup. Mm-hmm. Donc du coup, j'ai trouvé un groupe sympa, juste à côté de chez moi, un groupe sympa, des gens sympas, des gens bienveillants. Et donc là, j'ai de la chance aussi, du coup, c'est un petit peu les mêmes personnes qu'à la danse, dans leur approche, mm-hmm. dans leur bienveillance. Donc du coup, c'est sympa aussi. Donc ça fait longtemps que je voulais faire du théâtre depuis 15, j'avais 15 ans et puis ça s'était jamais fait. Et puis là, il y a 2 ans, j'ai pu rentrer dans un club de théâtre juste à côté de chez moi. Et donc là, et donc du coup, j'y prends du plaisir. Donc pareil, je suis obligé de travailler sur des projets de pièces, de spectacles, tout ça Donc du coup, ça m'a donné de l'énergie positive.
Ouais, et puis des choses que t'aurais jamais faites avant, finalement, de faire comme ça, de la danse contemporaine, de faire de la scène avec tout ça, avec grâce à la compagnie de Julie Salg et de Philippe Scheer, de faire des maintenant du théâtre, des maisons, etc. Alors que tu es 5 ans après ton diagnostic d'Huntington. Donc c'est génial comme témoignage aussi pour toute la communauté Huntington. Puis Eric, il va falloir qu'on s'arrête là, même si on t'écouterait bien des journées entières, mais peut-être tu reviendras nous voir.
Ah avec plaisir.
Alors je te dis très 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 bonne continuation et merci encore. Reste au micro, j'arrête juste l'enregistrement.
Ouais.